France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir encore avec les informés. Et je sais ce que vous vous dites, que c'est pas si compliqué d'être à leur place, que vous aussi, vous avez des idées, que vous feriez aussi bien. Eh bien, détrompez-vous, ils passent toute une série d'épreuves avant d'accéder à ce studio, d'examens, de tests, et à côté, Parcoursup, c'est de la roupie de Sansonnet. Je vais vous les présenter, ces gladiateurs du débat, en commençant par notre gladiatrice, Jeannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir, rédactrice, Lyon.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien Aujourd'hui en France, Mathieu Aron, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs, Xavier Alberti, bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Chef d'entreprise, président de La Transition, et puis Jean-Daniel Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du département politique opinion d'Aris Interactive. Au sommaire, beaucoup d'actualités internationales, nous allons aussi parler d'une guerre très politique entre le gouvernement et la mairie de Paris autour de la question des migrants. Et puis nous évoquerons la nouvelle et peut-être surprenante politique commerciale d'Amazon. Et je peux vous dire que l'époque du client roi, c'est terminé. Mais l'actualité ce soir, c'est évidemment cette annonce de Donald Trump qui a décidé d'annuler le sommet prévu dans moins de 3 semaines avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Annonce qui a d'autant plus surpris qu'elle intervient le jour même où Pyongyang annonce le démantèlement de son site d'essai nucléaire. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez, évidemment, mais je vous propose d'abord d'écouter la mise au point de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Je pense que c'est un revers énorme pour la Corée du Nord et bien sûr un revers pour le monde. Si Kim Jong-un choisit d'engager un dialogue et des actions constructives, je suis prêt. Entre-temps, nous continuerons nos sanctions très fortes, de loin les sanctions les plus fortes jamais imposées, et une campagne de pression maximale.
And maximum pressure campaign will continue. Donald Trump, il y a quelques heures à la Maison-Blanche. Jeannick Halimi, vous y comprenez quelque chose? C'est un coup de poker?
Oui, j'y comprends quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux, parce que depuis quelques semaines, quelques mois, on commençait à trouver quelques vertus à Donald Trump dans sa... Vous voyez, dans sa politique de la force, dans sa politique du pari, de sa politique de poker.
Oui, on disait qu'il faisait bouger un peu les choses.
Et donc là, eh ben, je m'y retrouve, oui, parce que, souvenez-vous, c'est Donald Trump tout seul qui avait décidé de se rendre, d'organiser hein, ce rendez-vous à Singapour avec, avec le dictateur de Corée du Nord. Tout le monde commençait un petit peu, encore une fois, à battre des mains, mais on se rend compte qu'un président des États-Unis ne peut pas prendre des décisions tout seul, parce que, eh ben, il y a les réalités qui lui reviennent à la figure. Et cette décision qu'il avait prise, eh ben, il n'avait pas du tout encadré, il n'avait pas pris certaines protections toutes bêtes. Et après avoir consulté tout simplement ses conseillers de sécurité, ses conseillers militaires, eh ben, les exigences américaines, de façon beaucoup plus rationnelle, sont revenues sur le devant de la scène, notamment la dénucléarisation totale, finalement demandée et exigée par les États-Unis.
Une dénucléarisation complète, vérifiée. Voilà. Et irréversible, voilà. Ça laisse entendre que quoi, qu'ils ont des informations comme quoi ce ne serait pas le cas en ce moment.
Bah écoutez, la dénucléarisation de l'appareillage de l'équipement dont vous parliez ne se faisait pas sous le contrôle de l'ONU, donc de toute façon on pouvait avoir des doutes. Et là, eh bien ma foi, la réalité rattrape Donald Trump et le président de la Corée a refusé. Voilà.
Mathieu Aron.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vis-à-vis de Donald Trump, effectivement, l'annonce de cette rencontre avait été interprétée, avait été commentée comme le premier succès sur la scène internationale de Donald Trump, après une pluie de critiques qui lui était tombée dessus. Finalement, il montrait au monde qu'il était capable de faire quelque chose. Bon, là, sur les raisons exactes du report de cette rencontre, c'est un petit peu compliqué de le savoir, puisqu'on a la lettre.
C'est assez flou.
On a la lettre de Donald Trump, où à la fois il regrette les propos des Nord-Coréens, mais en même temps il explique qu'ils ont quand même eu des signes positifs, puisque des otages ont été libérés. Il y a eu l'annonce aussi de la destruction du site d'essai nucléaire qui a été fait en Corée du Nord en présence de journalistes qui ont attesté qu'apparemment ce site avait bien été détruit. Donc on ne comprend pas véritablement pourquoi il y a ce...
Pas encore une fois d'inspecteurs internationaux.
Pas d'inspecteurs internationaux, mais une partie de la presse était là.
Dans le courrier, il y a tout de même cette phrase dans ce courrier envoyé par Donald Trump. Si vous changez d'avis concernant cet important sommet, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. Oui. Ça veut dire quoi? Que toutes les portes sont pas fermées?
Ça veut dire qu'il laisse effectivement une porte ouverte. Ça veut surtout dire que dans le contexte international qu'on est en train de vivre, entre le bourbier syrien, entre ce qui se passe avec l'Iran, entre une Europe qui va très très mal, la montée des populismes, il y avait quelque part, je dis pas un espoir, mais enfin un signe positif que la tension pouvait redescendre au moins dans un endroit du globe. Cet espoir aujourd'hui tombe, ce qui fait que ça fout un petit peu un coup au moral. On se dit qu'on vit dans un monde qui est quand même bien difficile en ce moment.
Un monde qui est de plus en plus dangereux, quoi.
Je ne sais pas s'il est plus dangereux, en tout cas il est de plus en plus tendu.
Bon, il est donc tendu évidemment en Corée, tendu en Europe, tendu en Asie. Il est 20h10, on va poursuivre évidemment le débat sur ce qui se passe en Corée. Mais d'abord, à 20h10, c'est l'heure de l'info avec Stéphane Milhomme.
Le djihadiste français Adrien Anguial, arrêté en Syrie par les forces kurdes, il a prêté sa voix au message de revendication de Daesh après les attentats de Magnanville et de Nice en 2016. Ce Français de 33 ans est détenu à l'est de Deir ez-Zor avec sa femme et leurs 6 enfants. Un an après la réception de Poutine à Versailles, Emmanuel Macron est reçu depuis quelques heures en Russie pour parler diplomatie. Mais depuis le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, la Russie recherche aussi de nouveaux partenaires économiques et tous ces sujets. Pour tous ces sujets, le président Macron appelle à des initiatives communes. L'Italie est un élément essentiel pour la zone euro et le patron de Bercy, Bruno Le Maire, se félicite des commentaires pro-européens du président Sergio Mattarella. Une déclaration moins de 24 heures après la nomination de Giuseppe Conte, le premier ministre populiste, entend confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde. En France, l'État est prêt à reprendre 30 à 35 milliards d'euros de dettes de la SNCF. Parole du député rapporteur du projet de réforme ferroviaire, Jean-Baptiste Djebari, confirme que l'ardoise de la compagnie est de 47 milliards pour SNCF Réseau et 8 milliards pour la branche mobilité. Et puis Gilles Simon, qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Lyon, le joueur niçois 75e mondial, a battu le Kazakh Kukushkin. Il affrontera demain le 102e mondial, le Britannique Cameron Norrie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et premier des quatre débats, des quatre sujets de débat pour les informés ce soir. On revient évidemment sur cette annonce de Donald Trump qui a décidé d'annuler le sommet prévu avec le leader nord-coréen. Xavier Alberti, qui perd le plus finalement dans cette affaire à votre avis?
Je ne suis pas sûr que qui que ce soit perde quoi que ce soit. D'abord, c'est pas totalement étonnant que les relations entre deux personnages comme Kim Jong-un et Donald Trump de l'autre côté soient erratiques. Ça correspond quand même globalement à ce qu'ils sont profondément. Ensuite, je suis pas certain non plus que la tenue ou la non-tenue d'une rencontre entre eux à Singapour soit l'alpha et l'oméga de la stabilité de la zone. Et je pense que le sujet, il est
d'accord,
plus...
mais symboliquement, c'est important.
Ouais, ils peuvent se voir le jeudi et raconter n'importe quoi, à mon avis, le vendredi. Donc, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est quelle est l'attitude de la Corée du Sud d'un point de vue militaire par ailleurs, et quelle est l'attitude de la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord. Et le vrai jeu diplomatique, à mon avis, il joue surtout là, dans le fait que on surinvestit, à mon avis, l'impact de Trump sur l'attitude de la Corée du Nord. Et je pense que c'est, encore une fois, beaucoup plus la Chine qui tient une part de vérité sur cette zone-là, et la volonté ou pas de la Corée du Sud de jouer un apaisement, c'est-à-dire globalement de revenir en arrière sur un certain nombre de sujets de militarisation.
Ils sont très inquiets. Hein, ce soir, le président sud-coréen a convoqué une réunion d'urgence avec le chef des services secrets et il dit chercher à comprendre quelles sont les intentions du président Trump et leur signification. C'est un peu inquiétant. Ça veut dire qu'en plus, les Sud-Coréens ne comprennent pas Donald Trump, Jean-Daniel Lévy.
Alors, ils ne comprennent pas forcément Donald Trump. Je pense que c'est pas les seuls. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que quand on regarde différentes enquêtes qui ont été réalisées en Corée du Sud, il y avait un espoir qui était né, en fait, de cette rencontre annoncée, et même une image, une opinion et une confiance à l'égard du dictateur nord-coréen qui avait bondi au cours de la dernière période, à tel point qu'il y avait 80% des personnes qui habitaient au sud de la Corée qui déclaraient faire confiance à Kim Jong-un. Donc il y avait, dans
c'est
ce contexte-là...
C'était l'effet JO, ça
c'était pas, enfin, il y avait un, l'effet JO, deux, l'effet rencontre avec le représentant de la Corée du Sud, et puis trois, l'annonce de la rencontre également avec Donald Trump. Donc il y avait, de notre point de vue français, un regard entre une confrontation États-Unis d'un côté, Corée du Nord de l'autre, mais quand on regarde précisément au sein de la Corée, il y avait aussi cet espoir d'une tension qui pouvait être amenée à baisser très fortement auprès même des habitants du sud de la Corée.
Jérémy Calimi.
Écoutez, on peut effectivement s'inquiéter du fait qu'il y aurait pu avoir un accord, un dégel, un rapprochement entre les deux Corées et puis la fin des missiles qui survolent Tokyo ou je ne sais plus quelle île du Japon en provenance de la Corée du Nord. Mais encore une fois, une vraie stabilité se fait, ou en tout cas doit se faire, dans un cadre multilatéral. C'est quand même les fondements mêmes de l'organisation de notre planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on aurait pu effectivement se contenter d'embrassades, et comme me disait Xavier Alberti, d'une rencontre, mais qui aurait fait pchit immédiatement. Il faut, pour qu'il y ait véritablement une zone de pacification et un dégel, des véritables négociations avec des exigences, avec des compromis, avec des papiers signés, avec des traités signés, ce qui n'était pas le cas, et on n'en prenait pas le chemin avec deux personnalités comme Trump, l'imprévisible et l'unilatéralisme, et le dictateur de Corée du Nord.
Oui, Xavier Alberti.
D'ailleurs, je pense que la lecture de la lettre envoyée par Trump aujourd'hui à Kim Jong-un est symptomatique de la façon dont il tente de faire de la diplomatie. Dans cette lettre, il y a tout et son contraire. Il y a tout à la fois beaucoup de politesse, une sorte de gestuelle un peu particulière, quand il s'agit de dire merci beaucoup pour le temps que vous avez pris, pour les efforts que vous faites, etc. Et à l'autre extrémité de cette lettre, il y a « je vous rappelle que j'ai un arsenal nucléaire qui est massif ».
Ah oui, c'est vraiment c'est celui qui a le plus gros arsenal nucléaire.
Oui, mais il dit les deux dans le même courrier, alors que le courrier doit faire 150 mots. Dans le même courrier, en deux phrases, il passe de « merci beaucoup d'avoir libéré les otages américains », puisqu'il a Kim Jong-un avait fait un geste dans ce sens-là, et à la fois, quasiment une déclaration de pré-guerre, en disant « attention, si vous continuez, on va vous envoyer des missiles ».
Allez, les informés, on va peut-être passer à l'autre actualité internationale du jour, ce sommet Russie-France. Emmanuel Macron était effectivement arrivé cet après-midi à Saint-Pétersbourg, où il a été accueilli par Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, qui doit donner d'ici quelques minutes une conférence de presse, mais qui s'est exprimé dès son arrivée au Palais Constantin.
Je crois que le moment que nous vivons impose que nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec une histoire forte, une politique internationale qui a toujours été forte et indépendante, puisse construire, qu'il s'agisse de l'Ukraine, du Moyen-Orient, autour de la crise iranienne et de la situation en Syrie, et qu'il s'agisse aussi de la manière dont nous voyons le multilatéralisme contemporain, je crois qu'il nous faut travailler pour prendre des initiatives communes.
Mathieu Aron, c'est quoi l'enjeu finalement de ce sommet ?
Ben, on peut essayer de l'entendre à travers ce que dit Emmanuel Macron. Moi, ce que je remarque, c'est que on l'a connu plus brillant, Emmanuel Macron, quand on l'écoutait là. C'est assez intéressant l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, à mon avis, parce que quand on a en mémoire les images de sa visite aux États-Unis, de son entente avec le président Trump, de ses poignées de main échangées, quasiment de ses embrassades entre eux, et quand on l'entend là avoir un discours assez empesé et puis assez prudent vis-à-vis de Poutine, on se dit qu'il est en train de se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? En réalité, sur la scène internationale, aujourd'hui, la France et l'Europe se retrouvent vis-à-vis de la Russie avec une obligation une véritable obligation de discuter à minima avec Poutine. C'est celui qui, effectivement, en Syrie, détient la clé. Et c'est celui aussi qui détient une partie de la clé depuis que Donald Trump a expliqué qu'il rejetait l'accord iranien. Et on se retrouve là dans une vraie complexité parce que ça fait des années que la France, en réalité, a adopté une politique qui a été une politique de soutien au grand adversaire de l'Iran, à l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite soutenue par les États-Unis, alors que l'Iran, elle, avait le soutien de la Russie. Donc c'est complexe parce qu'on s'aperçoit que le parti pris qui a été celui de la diplomatie française de manière un petit peu continue, alors avec des variantes mais de manière un petit peu continue depuis quelques années, aboutit aujourd'hui à une situation qui n'est pas la plus confortable.
Oui, où on disait on ne peut pas discuter finalement avec les Russes et avec Poutine. Xavier Alberti.
On doit discuter effectivement, on n'a pas le choix, et sur le dossier irako-syrien et sur le dossier iranien, et sur le fait qu'on en parlait sur le dossier précédent, il y a des enjeux aujourd'hui de rééquilibrage mondiaux, et je pense qu'on se cherche. Je pense que la France et l'Europe se cherchent dans ce jeu de rééquilibrage.
Mais justement, il n'y a pas une chance pour la France, au milieu de ce maelstrom. On parlait de Trump il y a quelques minutes. Les Britanniques, avec le Brexit, sont un petit peu hors-jeu pour le moment. L'Allemagne est affaiblie.
C'est le jeu diplomatique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé, c'est de s'imposer comme le leader de l'Europe. En tant que tel, il cherche ce leadership-là. Là, en Russie spécifiquement, il n'y va pas, effectivement, pour des jolies images avec Poutine, parce qu'il sait parfaitement que ça ne fonctionne pas comme ça avec Poutine. Il y va pour
que ça n'a pas très bien fonctionné.
Trouver des points d'ancrage réels sur deux ou trois dossiers majeurs, dont le dossier iranien, parce que c'est quand même celui qui nous rapproche aujourd'hui, presque naturellement, de la Russie.
Allez, on va laisser passer l'info, puisqu'il est 20h20, et puis on reprend le débat autour de ce voyage d'Emmanuel Macron en Russie. Stéphane Milhomme pour l'info.
Le sommet entre Américains et Nord-Coréens n'aura donc pas lieu. Donald Trump l'a écrit cet après-midi dans une lettre envoyée à Kim Jong-un et les réactions s'enchaînent. Le président sud-coréen exprime ses profonds regrets. Il convoque une réunion d'urgence dans son pays. Inquiétude d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, devant l'annulation de cette réunion qu'il qualifiait d'historique. Nicolas Maduro prête serment comme président réélu au Venezuela. Un second mandat de 6 ans au moment où bon nombre de pays comme la France contestent les conditions de ce scrutin de dimanche dernier. Maduro réélu à 68%, mais avec le boycott de l'opposition. À Londres, les deux Français employeurs de Sophie Lyonnais reconnus coupables du meurtre de cette jeune fille au père. Le corps de la jeune femme de 21 ans avait été retrouvé carbonisé en septembre dernier dans le jardin du couple. Les peines des deux condamnés seront prononcées le 26 juin prochain. 67 personnes, dont 27 mineurs, sont finalement déférées au parquet ce soir après les incidents en marge de la manifestation des fonctionnaires. Dégradation ou violence mardi dernier à Paris. Au total, 128 personnes ont été appelées à préciser leur rôle ces derniers jours dans la rue, mais aussi après s'être introduit dans le lycée Arago. Et puis cet écrivain avait créé le personnage du commissaire Le Floch qui enquête dans le Paris du XVIIIe siècle. L'auteur est ancien diplomate. Jean-François Parot est mort aujourd'hui à 71 ans. Ses 14 livres publiés chez Jean-Claude Lattès étaient devenus des succès internationaux.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on débat ce soir de ce sommet entre la Russie et la France à Saint-Pétersbourg, alors que, à l'instant même, et avec plus de 2 heures de retard, la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine commence. Yannick Halimi, qu'est-ce que Vladimir Poutine, lui, recherche avec ce sommet, finalement?
Mais entendons-nous, hein, c'est pas un sommet politique. Ces gens-là sont pas venus à Saint-Pétersbourg pour refaire le monde. C'est un... C'est un salon d'investissement. On est là pour faire en sorte que le commerce se passe bien, les investissements se passent bien, Moscou pour attirer des investisseurs étrangers et la France pour vendre le plus de biens ou implanter le plus d'entreprises possible.
Ne vous éructez pas, je vais faire des grimaces. Yannick Halimi, chef du service politique du Parisien, vous pouvez pas dire que c'est pas politique. Tout le monde scrute les rapports entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Mathieu Aron nous le disait. On pense évidemment à cette rencontre précédente avec Trump.
Mais bien sûr, laissez-moi terminer. Je veux dire tout de même que À l'origine, ce n'est pas un sommet politique et ce n'est certainement pas un sommet franco-russe, premièrement. Et deuxièmement, donc on est là pour parler économie, investissement et industrie, je le répète.
Alors parlez-nous économie, investissement et industrie.
Mais deuxièmement, bien évidemment, on a entendu les propos préliminaires d'Emmanuel Macron là à l'instant. Évidemment qu'on parle politique, évidemment qu'on parle géostratégie. Et là, je pense que c'est beaucoup plus simple, paradoxalement. Je pense que... Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez dit, Mathieu Aron, pardonnez-moi, mais qu'avec Trump qui est une personnalité complètement imprévisible et qui remet en cause, encore une fois, beaucoup de fondements, et à l'intérieur de son pays et dans le monde tel qu'il est, de fondements vraiment de coopération, etc., mais qui est un allié. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron de parler avec Trump, et on l'a vu, maintenant qu'on se gausse des bises et des embrassades.
Oui, surtout pour se prendre une claque sur la
on va voir ce qui va en advenir. Mais pour, je termine avec Poutine, c'est une relation qui est assez claire. C'est-à-dire, c'est un rapport de force, mais qui ne ferme pas la porte totalement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, par exemple, sur la Syrie et l'Irak, certes, il y a la Russie qui lutte contre Daesh, mais ça n'a pas empêché la France et les Américains d'aller riposter aux attaques chimiques de l'allié de la Russie qui est Bachar al-Assad. On a expulsé certains diplomates russes à la suite de l'empoisonnement des anciens diplomates russes en Angleterre. Donc, Emmanuel Macron sait comment parler avec Vladimir Poutine, à qui on ne parle qu'avec un langage de force et avec qui on met en place des rapports de force. Mais on ne ferme pas la porte.
Jean-Daniel Lévy, l'opinion publique, elle va voir ces images, elle va voir évidemment la dimension politique de ce voyage.
Quand elle voit Emmanuel Macron et quand elle voit Vladimir Poutine, elle se dit forcément qu'il y a un enjeu qui est un enjeu politique. De toute façon, lorsqu'il est question d'investissement et d'économie, la France est un pays assez singulier qui fait que les réponses sont souvent des réponses à caractère politique. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'est attendu Emmanuel Macron. C'est-à-dire, quelle est la place de la France au niveau international? Quelle est la capacité de la France à pouvoir faire bouger ou faire évoluer Vladimir Poutine dans ses positions? Et comment est-il possible de faire en sorte que, notamment sur, non pas un enjeu qui est un enjeu économique, mais qui est un enjeu à caractère géostratégique, c'est-à-dire les conséquences de ce qui peut se passer en Syrie, peuvent être influées à l'issue de ces relations? En tout cas, c'est ce qu'attendent véritablement les Français dans ce contexte-là. Et puis, il y a un précédent. Le précédent, même si ce n'était pas lié à un enjeu à caractère économique, c'était la relation entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine, notamment lorsqu'il était question des relations entre la Russie et la Géorgie. Et à cette époque-là, la confrontation entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine avait eu en France une incidence extrêmement forte sur la cote de confiance à l'égard du président Nicolas Sarkozy, qui avait cru très fortement autour de l'idée « la France est présente dans le Concert des Nations, à sa capacité à pouvoir porter fortement la voix d'une manière générale qui est celle des Français et qu'on arrive parfois à faire plier Vladimir Poutine ». Donc c'est probablement...
Montrer ses muscles face à Vladimir Poutine, c'est bon au niveau politique strictement français.
En tout cas, d'un point de vue français, c'est extrêmement bon parce qu'on se dit au moins la puissance française ne se rabat pas ou en tout cas ne se limite pas au strict cadre de nos frontières.
Mathieu Aron, d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron l'année dernière. On se souvient de cette rencontre à Versailles, là, dont le scénario était quand même vraiment cousu de fil blanc. On était dans la salle des batailles, on montrait toutes les grandes victoires remportées par les armées françaises au cours des siècles.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est bon politiquement pour un leader politique français de montrer ses muscles vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on ne peut pas se contenter de montrer ses muscles. C'est-à-dire, quand on discute avec Vladimir Poutine, et quelque part, on a aussi besoin de Vladimir Poutine. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, là, en ce moment. Puisque, depuis la décision américaine sur l'Iran, la France ne partage pas, l'a dit, comme plein d'autres pays, peut avoir comme allié dans cette affaire iranienne, en fait, la Russie. Donc, le jeu diplomatique devient infiniment plus complexe. Et la lecture qu'on peut en faire n'est pas simple. Et sur cette affaire iranienne, mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est que on a d'un côté les politiques européens, la Russie qui disent clairement qu'ils ne rentrent pas du tout dans la logique américaine, et de l'autre côté, à ma connaissance, une et je crois deux des plus grandes entreprises françaises qui disent on va être obligé de se coucher et on ne va pas pouvoir aller faire des affaires en Iran. Donc c'est là où on voit qu'il y a d'un côté les enjeux économiques et la réalité économique, et de l'autre côté la diplomatie.
Allez, les informer. Hein. On va vous donner un verre d'eau, vous faire écouter la météo, les infos. Et on se retrouve pour la deuxième minute. La deuxième partie, c'est dans 5 petites minutes. À tout de suite.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le mois de mai, c'est le mois de l'hésitation. Comment on va s'habiller? Est-ce qu'on va faire le pont? Et où on va partir? Quel parfum de glace? Quel... Bref, on hésite vraiment sur tout. Ah si, il y a une chose sur laquelle on n'hésite pas. Notre box internet.
Et oui, chez SFR, n'hésitez plus un instant. Jusqu'au 6 juin, la box starter est à seulement 15€ par mois pendant 12 mois, puis 35€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité, réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de la fête des mères. 10 millions d'euros minimum à gagner. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Info Météo. Avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 280 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Élodie Calac à Météo France.
Orage à l'ouest, mais soleil à l'est. Demain, sur le flanc est, la journée sera très ensoleillée. De Midi-Pyrénées et du Languedoc, en remontant vers Champagne-Ardenne et la Lorraine, du soleil, mais aussi quelques passages nuageux, parfois inondés. Et puis de l'Aquitaine vers la Bretagne et le nord de la Seine, ça deviendra instable. Un ciel chaotique avec quelques averses orageuses, plus nombreuses et plus marquées sur le Pays Basque et les Charentes le matin. De la côte aquitaine jusqu'au nord-ouest l'après-midi. Pour les températures, souvent 10 à 14 degrés au nord le matin, 12 à 16 au sud. L'après-midi, 18 à 23 degrés près de la Manche, 22 à 29 degrés ailleurs, avec 26 à Paris, Nancy, Toulouse, 28 degrés à Bordeaux et 29 à Lyon, Grenoble ou Montélimar.
Vous écoutez France Info, il est très précisément 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info, c'est avec Augustin Arrivé. Bonsoir Augustin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Donald Trump explique prier pour ne jamais avoir à faire usage de son arsenal nucléaire. Voilà ce qu'il a écrit à Kim Jong-un aujourd'hui dans une lettre actant l'annulation de leur rencontre. Elle devait avoir lieu le mois prochain à Singapour. Rencontre qui lui semble désormais inopportune au regard de la colère proférée dans les dernières déclarations du dictateur nord-coréen. Un djihadiste français de 34 ans arrêté cette semaine en Syrie a Adrien Guial. Il se trouvait à proximité de la ville de Deir ez-Zor avec sa femme et leurs 6 enfants. Ils sont maintenant détenus dans un camp kurde. Il travaillait pour Daesh. C'est lui qui parlait notamment dans l'enregistrement de revendications de l'attentat de Nice. Journée de jeudi marquée aussi dans le même secteur par la mort d'une douzaine de soldats de l'armée syrienne dans des bombardements. Damas accuse la coalition internationale d'être responsable, mais Washington nie en bloc. Retour à la normale progressive sur les rails. Demain, petite pause dans le mouvement de grève des cheminots. Les syndicats seront reçus dans la journée par Édouard Philippe. La prochaine journée de grève étant prévue lundi. Le label Pavillon Bleu décerné cette année à 399 plages françaises, y compris d'ailleurs pour un tiers d'entre elles des bords de lacs ou de rivières. Décerné également à un peu plus d'une centaine de ports de plaisance dans le pays, 186 communes au total. C'est 13 de plus que l'an dernier pour ce label environnemental sur la qualité de l'eau et la prise en charge des déchets. Un policier condamné 2 ans après les faits pour des violences volontaires sur des lycéens qui manifestaient à Paris contre la loi travail de Myriam El Khomri. 4 mois de prison avec sursis et 1300 euros de dommages et intérêts à verser aux 2 jeunes victimes, des élèves du lycée Bergson dans le 19e arrondissement de la capitale. Guillaume Batin, on vous retrouve pour la conclusion de cette finale de Ligue des Champions féminines. Les footballeuses lyonnaises qui ont totalement renversé la vapeur en prolongation face aux Allemandes de Wolfsburg. Il y a 4 buts à 1 dans les dernières minutes de ce match.
Oui, on a eu une première période, une deuxième période assez stérile avec une grosse domination lyonnaise 0-0 au tout début des prolongations. Et puis, contre le cours du jeu, ce sont les Allemandes qui ont ouvert le score à la 93e minute par Pernille Harder. Les Allemandes qui se sont trouvées très vite en infériorité numérique puisque l'arbitre tchèque de cette rencontre a donné un carton rouge à l'Allemande Alexandra Popp. Et puis derrière, eh bien, les Lyonnaises, les Françaises ont déroulé. Premier but pour égaliser. égalisait à un partout. Amandine Henry à la 98e. Quelques secondes à peine après, le 36e but en Ligue des Champions de la carrière de Jenny Le Sommer pour prendre l'avantage 2-1. Ada Hegerberg, la Norvégienne, l'attaquante, la numéro 9 de cette équipe lyonnaise. 15e but cette saison qui donne décidément l'avantage pour Lyon face à Wolfsburg. Et puis le 4e but à quelques secondes maintenant de la fin de cette deuxième partie de la prolongation pour Camille Abili, l'une des joueurs historiques aussi de cette équipe lyonnaise. 35e but pour Camille Abili. On s'achemine vers une victoire, une 3e victoire consécutive en finale de la Ligue des Champions pour Lyon, qui va aussi devenir le club le plus titré de l'histoire du foot féminin, puisqu'elle dépasse les joueurs de Francfort avec désormais 5 titres. Le temps est écoulé, 120 minutes. Lyon, ça y est champion d'Europe 2017-2018.
Guillaume Batin, et le football français masculin peut en prendre de la graine. Vous écoutez France Info à 20h33. On retrouve Olivier Delagarde, c'est la suite des informés.
20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Ils ont repris des forces pendant la pause, se sont réjouis de la victoire des Lyonnaises, réaffûté leurs arguments. Si vous nous rejoignez seulement, vous avez eu tort hein, d'avoir manqué la première demi-heure, mais je vais vous tout de même vous présenter les informés de ce soir. Jeannie Calimi du Parisien aujourd'hui en France, Mathieu Aron de l'Obs, Xavier Alberti, chef d'entreprise, et Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. Alors, pendant la première demi-heure, on a beaucoup parlé de l'actualité internationale. Revenons en France, si vous le voulez bien, avec ces bisbilles entre le gouvernement et la mairie de Paris sur la question des migrants. Le ministre de l'Intérieur a effectivement annoncé une évacuation à bref délai de 2300 migrants vivant sur des campements à Paris. Gérard Collomb qui a dit prendre note du refus de la ville de demander l'évacuation de son domaine public, ce qu'il regrette, ajoute-t-il. Alors, réponse de la mairie de Paris dans un communiqué, nous accueillons favorablement cette décision, mais le communiqué ajoute que l'État n'a pas besoin d'une décision de justice pour intervenir et qu'il est essentiel que l'État mette en place des dispositifs pérennes d'accueil. Et puis, histoire de ne surtout pas calmer les esprits, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé aussi sur le sujet ce matin sur Europe 1. Écoutez.
Nous avons décidé de procéder à l'évacuation, mais le ministre de l'Intérieur se substitue en cela à la maire de Paris, qui disait il faut mettre à l'abri ces migrants qui sont notamment le long du canal Saint-Martin. Mais pour les mettre à l'abri, il faut qu'on puisse les évacuer. Or, seule la maire de Paris avait l'autorité pour demander au pouvoir public, au préfet de police, au préfet de Paris,
la preuve que non.
D'évacuer. Nous nous substituons donc à son rôle, parce qu'elle n'a pas pris la responsabilité politique de demander l'évacuation.
Bon, Jean-Daniel Lévy, expliquez-nous, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi cette passe d'armes?
Ça signifie qu'on est entré dans la campagne des municipales de 2020.
Tiens donc.
Que Benjamin Griveaux, et ça fait de mystère pour personne, a clairement l'intention d'être candidat au nom de La République En Marche pour la mairie de Paris, et que dans ce contexte-là, profitant d'une situation qui est comme une situation singulière à Paris, c'est-à-dire que la responsabilité dans la ville capitale de ce qui relève de l'État d'un côté, du département, parce que c'est également un département et également la commune, n'est pas toujours aussi claire. Et on voit parfois qu'il peut y avoir, en matière même de circulation, en matière de gestion des migrants, des bisbilles pour savoir qui a véritablement la responsabilité. Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui, notamment Benjamin Griveaux, qui prenne la parole de manière aussi nette, appuyé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, montre bien qu'il y a la volonté de la part aujourd'hui du pouvoir politique national en place de créer les conditions d'une déstabilisation supplémentaire à l'égard d'Anne Hidalgo, qui a déjà des zones de fragilité, aussi bien en France qu'auprès des Parisiens, d'un point de vue en tout cas d'opinion.
Xavier Alberti, c'est cousu de fil blanc, c'est la campagne des municipales qui commence?
Je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas très sérieux. Alors que c'est un sujet sérieux. C'est 2400 hommes, femmes et enfants qui vivent dans des conditions abominables. C'est un sujet qui impacte la vie des Parisiens au quotidien, pour les zones en tout cas où les campements s'installent. Et c'est surtout un sujet qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas épisodique, c'est quelque chose auquel on va être confronté. Donc qui réclame que chacun prenne ses responsabilités. Et il est évident que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité sur un certain niveau de décision de la mairie de Paris et sur d'autres, et en particulier sur l'ordre public, de l'État. Donc on s'attend sur un sujet de cette... de cette profondeur-là. Encore une fois, on touche à l'humain.
On a quand même l'impression que l'État estime que la mairie de Paris n'en fait pas suffisamment.
Encore une fois, je pense que c'est pas très sérieux parce que je rejoins ce qui vient d'être dit. On fait de la politique politicienne sur un sujet qui mériterait, au contraire, que chacun prenne ses responsabilités et travaille ensemble au règlement de cette question-là plutôt que de s'envoyer des communiqués. Enfin, on s'envoie pas des communiqués là-dessus, quoi. On bosse.
Yannick Halimi.
Alors oui, il y a un côté très regrettable dans ces chicayas avec plus que ces chicayas, mais enfin avec cette
joli mot chicaya,
mais ouais, oui, avec ces politiques aériennes, avec effectivement la campagne municipale qui déjà se
dans deux ans. Hein.
Voilà. Donc on se dit bon, ça ne vaut pas. Enfin, bref, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. C'est un problème suffisamment grave pour être traité à des niveaux autres que les propos qui viennent de s'échanger. Il n'empêche que il y a quand même, je pense, une dimension de politique avec un grand P dans tout ça. Et il y a, en tout cas, les deux protagonistes tentent de vouloir définir un peu de deux politiques migratoires différentes. La mère de
remontez-nous le débat un peu. Voilà.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais j'essaie de faire des sous-titres à ce qui, j'espère, n'est pas que de la politique aérienne. Voilà, avec tout le respect que je vois pour les municipales, mais encore une fois, c'est dans deux ans, et puis il y a la vie des gens concernés et des Parisiens. Bref,
on sent qu'il y a des philosophies différentes sur la gestion des migrants.
Dans les discours, oui, parce que Madame Hidalgo défend volontiers un esprit d'accueil. De bienveillance vis-à-vis de ces migrants. Ce que lui reproche notamment Gérard Collomb en disant qu'en faisant cela, elle fait un appel d'air, voilà, et que la bienveillance et l'accueil de Madame Hidalgo ne va pas jusqu'au bout, puisque lorsqu'il y a eu des camps démantelés, puisqu'il y en a déjà eu plusieurs à Porte de la Chapelle...
34 fois, hein,
voilà, exactement. 95% des personnes n'allaient pas dans Paris intramuros, mais allaient en banlieue. Donc l'esprit d'accueil de la capitale, je ne veux pas incarner la problématique à travers Madame Hidalgo, parce qu'effectivement, peut-être que Paris ne peut pas accueillir tout le monde, mais tout de même, l'accueil que défend Madame Hidalgo, lorsqu'encore une fois, les camps de migrants étaient démantelés, la plupart, 95% des gens, allaient à l'extérieur et de la capitale. Et Gérard Collomb, en revanche, désire que ces migrants passent par des centres d'accueil pour pouvoir être contrôlés et à partir de là, avoir ou pas le statut de réfugié et de demandeur d'asile. Donc on voit qu'il y a deux politiques derrière ces deux discours et ces deux échanges de flèches entre Madame Hidalgo et le gouvernement.
Alors, on va poursuivre le débat autour de cette affaire, mais d'abord, il est 20h40, c'est l'heure de l'info, Stéphane Milhomme.
Et depuis Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron appelle la Russie à des initiatives communes. Le président de la République est l'invité de Vladimir Poutine. Ils sont en train de tenir une conférence de presse, mais dès cet après-midi, ils entamaient un échange direct et franc, selon Emmanuel Macron, notamment sur le plan diplomatique. Adrien Aguillal, c'est l'une des voix de l'État islamique lors des revendications des attentats de Magnanville et de Nice en 2016. Ce djihadiste français a été arrêté en Syrie par les forces kurdes, un Français de 33 ans qui est depuis trois jours détenu dans un camp à l'est de Deir ez-Zor avec sa femme également, leurs six enfants. Rendez-vous en novembre maintenant pour les membres de la famille Hallyday. La médiation proposée aujourd'hui par le juge de Nanterre pour régler la succession a échoué. L'avocat de Laetitia Hallyday impute la responsabilité à la fille de Johnny, Laura Smet. Il fait savoir dans un communiqué que sa cliente n'a pas refusé définitivement de médiation. À la SNCF, c'est le 22e jour de grève contre la réforme et près de 15% des cheminots ont cessé le travail aujourd'hui encore. Un chiffre en légère hausse. Retour à la normale prévue pour demain matin sur le trafic. Et puis il a fallu attendre les prolongations, mais les Lyonnaises remportent la 5e Ligue des champions de leur histoire, leur 3e consécutive. Une victoire 4-1 face aux footballeuses allemandes de Wolfsburg sur la pelouse de Kiev en Ukraine.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on suit d'un œil cette conférence de presse entre Macron et Poutine à Saint-Pétersbourg. Et dès qu'il se dira quelque chose d'important, on vous fera évidemment réagir, les informer. Mais comme pour le moment, ouais, ce n'est pas vraiment le cas, je voudrais qu'on revienne à ce qu'on disait, à cette affaire, cette passe d'armes entre le gouvernement et la mairie de Paris sur la question des migrants. Alors, on nous dit, d'un côté, oui, ça y est, c'est le début de la campagne des municipales. De l'autre, peut-être non, il y a aussi une conception, une philosophie différente entre deux visions de la gestion des migrants. Mathieu Aron de l'Obs, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a un arrière-plan politique évident avec la bataille des municipales. Et en même temps, si j'ose dire, oui, il y a des conceptions, en tout cas affichées, différentes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la problématique posée par les migrants qui sont dans cet emplacement aux portes de Paris, en fait, elle se résume à un terme, un peu technique, mais c'est fondamental de le comprendre. Pour beaucoup de ces gens, ce sont ce qu'on appelle des Dublinés. Alors qu'est-ce que ça signifie, des Dublinés ? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont arrivés en Europe, puis qui ont donné leur identité dans le pays.
Ont été inscrits dans un pays.
Voilà. Simplement, même des fois, donner leur identité dans un pays, généralement par les pays d'accueil. Pour les gens qui sont à Paris, pour beaucoup, beaucoup d'entre eux, par l'Italie. À partir du moment où ils sont rentrés par l'Italie et où ils ont laissé leur identité en Italie, les accords de Dublin prévoient effectivement que c'est à l'Italie d'examiner leur demande d'asile et pas à un autre pays européen. Voilà ce que c'est que les accords de Dublin. Le problème, c'est que l'Italie ne peut pas elle seule, en l'occurrence là, puisque la Grèce est maintenant terminée, mais l'Italie ne peut pas en ce moment à elle seule, effectivement, gérer ces migrants. Donc on est dans une
et
forme.
Et on sent bien qu'avec le nouveau gouvernement en Italie, en plus.
Ce sera définitivement non. Donc on est dans une forme d'hypocrisie absolue, qui est que les autres États européens, pas toutes, pas tous, mais la France, aujourd'hui, dit nous respectons ces accords de Dublin. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces migrants? On va constater qu'ils sont bien des Dublinés. On n'aura même pas examiné leur demande d'asile, puisqu'on les renverra en Italie, parce que c'est à l'Italie de le faire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ces gens repartent éventuellement en Italie quand on arrive à les faire repartir, et ils reviennent aussitôt dans un autre pays européen, la France. C'est un cercle vicieux absolument, absolument infernal dans lequel on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait revoir ces accords de Dublin, qui ne sont absolument plus du tout adaptés à la crise migratoire que l'on connaît. Des pays comme la France, il faut le dire, se cachent un petit peu derrière ces accords de Dublin. Et fondamentalement, quand Gérard Collomb dit « je vais traiter parce que la maire de Paris ne le fait pas », ils n'ont pas la même manière de traiter les choses. C'est-à-dire que la maire de Paris sous-tend qu'on va examiner ces gens et puis on va les mettre à l'abri. Gérard Collomb le dit ouvertement, il dit on va évacuer et puis derrière on va expulser. Donc effectivement, ce sont bien deux philosophies différentes, me semble-t-il.
Jean-Daniel Lévy, vous, Harris Interactive, vous scrutez l'opinion des Français. Qu'est-ce que les Français, finalement, pensent de cette affaire?
De la gestion des
migrants, quoi, si on peut dire ça.
D'une manière générale, ils sont plutôt aujourd'hui sur une attitude et une attente de fermeté plutôt que d'humanité, si on doit singulariser un peu les choses. Quand on se rappelle au cours des années 90, ou fin des années 90, la nature des débats, même la sémantique qui pouvait être utilisée, on parlait de sans-papiers, on ne parlait pas forcément de clandestins. Il y avait une notion d'accueil qui était assez forte, notamment au sein de la gauche. Et on peut voir que depuis un certain nombre d'années, et notamment parce qu'il y a parfois des mix qui sont faits dans les représentations entre immigration et insécurité, voire insécurité au pluriel, que même parmi une bonne partie de l'électorat de gauche, il y a aujourd'hui l'aspiration à voir les migrants retourner dans leur pays, quelles que soient d'ailleurs les différentes conditions pour lesquelles ils peuvent être amenés à venir en France. Par le passé, l'idée de se dire qu'il pourrait y avoir du regroupement familial, qu'il pouvait y avoir des cas notamment nécessitant une intervention médicale particulière de la part de la France, appelait à un regard qui est un regard un peu plus ouvert, entre guillemets, de la part des Français. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et que même lorsqu'on évoque des situations personnelles qui sont dramatiques ou difficiles, même une partie de l'électorat de gauche n'est plus forcément pour se dire « la France doit les accueillir ». On peut voir d'ailleurs que aussi bien les drames qui se passent dans la Méditerranée que ceux de la part des migrants qui traversent les Alpes avec les conséquences physiques qui peuvent en résulter, voire même la mort pour un certain nombre d'entre eux, ne suscitent pas aujourd'hui d'émotions manifestes dans la société française et pas même au sein justement d'une partie de l'électorat qui se situe à gauche sur l'échiquier politique.
Yannick Adiemi, c'est de toute façon un piège politique absolu parce que la situation est insoluble.
J'espère qu'elle n'est pas insoluble. Là, vraiment, là, ce serait baisser les bras. Il faut trouver des solutions. Ça prendra du temps. Je suis d'accord avec vous. Et le phénomène ne va faire que se renforcer avec l'immigration climatique, avec le terrorisme, avec la poussée démographique en Afrique. Mais il faut, en tout cas, une première étape pour décongestionner. Pardon ?
Il faut y croire.
Bah, bien sûr qu'il faut y croire. Il n'y a que
raison. Bah,
écoutez, vous avez raison. Que voulez-vous, le pessimisme de la raison, l'optimisme de l'action, disait Gramsci. Bon, ben bah, voilà. Essayons d'en faire autant. Non, pas tout à fait. En tout cas, je les retrouve. Un des étages de la fusée, c'est l'Europe. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, il faut évidemment englober des zones beaucoup plus importantes. Et si on pouvait aussi, ce qu'on commence à faire, d'ailleurs, traiter avec les pays d'origine pour essayer de mettre déjà des centres d'accueil dans les pays d'origine, ce que fait la France, ce que fait l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, et créer une OFPRA européenne comme l'a proposé Emmanuel Macron et il me semble Angela Merkel également. Donc ça peut être au moins des éléments de décongestionnement et de début de rationalisation. Mais ce que je voulais dire, peut-être pour rebondir sur ce que disait monsieur Jean-Daniel Lévy, oui, on voit qu'à droite, il y a de la surenchère, notamment de la part de Wauquiez, avec le Front National. Mais là où je mets un bémol quand même sur l'électorat de gauche, je respecte ce que vous dites, mais je vois quand même en termes de parti, je vois quand même qu'une des raisons qui commence à fissurer La République En Marche, qui est notamment sur sa gauche et les anciens députés socialistes, c'est cette affaire asile-immigration, tout de même.
Vous aviez averti, et puis Mathieu Aron.
Juste de façon très pragmatique, alors là, je vais revenir au rat des pâquerettes. Le sujet aujourd'hui, c'est le traitement de l'accueil, de l'examen des demandes d'asile de 2400 personnes. 2400 personnes. Il y a 2 400 000 habitants dans Paris, il y en a 7 millions dans le Grand Paris. Et là, on est en train de se dire que, même si c'était renouvelé tous les mois, on parle quand même de 2400 personnes. Ça ne va pas se démentir, effectivement, comme ça. C'est un phénomène qui va durer.
C'est une question de flux, quoi.
Donc, ouais, mais donc, à un moment donné, il faut mettre en place des structures, il faut mettre en place quelque chose qui va accompagner le processus, sans se dire que c'est insoluble ou infaisable, parce qu'encore une fois, on parle pas, c'est pas le camp dessin, notre histoire. C'est 2400 personnes. C'est quelque chose qu'on est tout à fait capable de gérer dans une ville comme Paris, dans une agglomération comme le Grand Paris, ou dans un pays comme la France.
Mathieu Aron.
Alors, pour continuer sur des chiffres, parce qu'ils sont importants en la matière, il faut bien voir que jusqu'en 2015, dans les années précédentes, l'Europe voyait environ 300 à 400 000 personnes qui demandaient l'asile en Europe par an. Dans les années 2015 et 2016, avec la crise syrienne et irakienne et d'autres tensions, en particulier en Afghanistan, ce chiffre a brutalement grimpé puisqu'on a eu 1,2 million puis 1,3 million de demandeurs d'asile. En 2017, on est retombé à quelque chose de plus classique, entre guillemets, autour de 500 000 demandes. Donc ce qu'on a eu à gérer et ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est durant 2 ans, en 2015 et 2016, cet afflux de demandeurs d'asile. Des pays européens ont largement ouvert leurs portes. Et le premier d'entre eux, l'Allemagne. C'est bien entendu l'Allemagne, qui en a quand même accueilli près d'un million. La France, en la matière...
La Suède aussi, proportionnellement.
Et la Suède, proportionnellement, en a accueilli énormément. Et la France a été un pays qui a très peu accueilli. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que nous avons l'effet double qui se passe, c'est-à-dire que un certain nombre de ces personnes qui n'ont pas pu trouver refuge dans les autres pays européens, parmi ces 2 millions de gens qui sont arrivés, viennent maintenant en France. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, on reste dans des chiffres très mesurés, puisque l'an dernier, on a accordé l'asile en France à 30-35 000 personnes. Donc on parle de 30 à 35 000 personnes sur une année.
20h50 sur France Info, l'info c'est avec Stéphane Milhomme.
Avec cette conférence de presse commune actuellement entre Français et Russes à Saint-Pétersbourg et ses déclarations par exemple sur le règlement de la guerre en Syrie, Vladimir Poutine considère qu'il est nécessaire de contribuer au règlement politique à long terme. Emmanuel Macron exprime une même volonté de stabilisation et de respect du peuple syrien. La France qui souhaite d'autre part que l'ensemble des signataires restent dans l'accord nucléaire iranien. Facebook étend au monde entier le règlement de l'Union européenne sur la protection des données personnelles. Une annonce ce soir du réseau social, alors que la RGPD entre en vigueur demain en Europe. Tous les utilisateurs du réseau social dans le monde auront donc accès aux mêmes choix et fonctionnalités que les personnes situées en Europe. La Belgique, l'Allemagne ou l'Italie, une dizaine de pays de l'Union européenne ont déjà autorisé le cannabis thérapeutique et pourquoi pas la France. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se dit prête à ouvrir le débat. Elle note que la France a pris du retard dans cet usage médical de la plante. Et puis au moins 200 plaintes déjà déposé contre Lactalis, l'affaire du lait infantile contaminé à la salmonelle. C'est l'avocate de certaines familles qui l'annonce à France Bleu Mayenne. Le parquet de Paris centralise actuellement les plaintes, plus spécialement son pôle santé publique. Un juge d'instruction devrait être saisi prochainement.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, dernier thème ce soir, on a peu de temps, mais c'est intéressant, c'est un sujet de société, comme on dit. Hein. Et c'est une information du Wall Street Journal. Aux États-Unis, Amazon, le géant de la vente en ligne, aurait fermé les comptes de plusieurs centaines de clients. A fermé les comptes, d'ailleurs, c'est pas au conditionnel. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il renvoyait trop les produits en demandant des remboursements. Alors, pendant longtemps, on pensait que la clé du commerce, c'était de considérer le client comme un roi. Eh bien, chez Amazon, le roi, c'est Amazon. Qu'est-ce qu'en pense le chef d'entreprise que vous êtes, Xavier Alberti ?
Je me demande si en France, il pourrait le faire ou s'il ne tomberait pas sous le coup du refus de vente, ce qui est illégal en France. Ensuite, il y aurait probablement moyen de régler le sujet en insérant dans les conditions générales de vente le fait qu'au bout d'un certain nombre de renvois de produits, Amazon pourrait appliquer tout simplement de la surfacture, enfin de la facturation, en disant bah au bout du quatrième renvoi, on vous facture quelques euros, et puis ça permettrait probablement de fluidifier un peu le sujet. C'est curieux, ça renvoie effectivement de toute façon à un sujet qui est beaucoup plus large, qui est le poids d'Amazon, la puissance d'Amazon, le fait qu'aujourd'hui puisse se permettre à peu près tout ce qu'il veut,
Amazon
y compris
fait
en
quoi.
Test. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est devenu c'est plus une entreprise. Il a quasiment autant de puissance qu'un État en termes de capacité financière, de mainmise sur un certain nombre de secteurs, y compris sur tous les secteurs dont on ne voit pas les effets aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la robotique, où il va se passer des choses dans les 10 ans qui viennent,
et pour l'instant on
s'intéresse uniquement au fait qu'Amazon est d'abord un énorme logisticien.
Jean-Daniel Lévy.
Oui, Amazon, c'est même devenu un moteur de recherche, comme Google peut être un moteur de recherche. C'est-à-dire que quand on voit les pratiques de la part des internautes, lorsqu'ils sont amenés aujourd'hui à rechercher un produit, ils vont plus forcément sur un moteur de recherche en tant que tel, mais ils vont sur Amazon en se disant que d'une manière ou d'une autre, ils vont trouver à bas prix, avec des conditions de livraison qui leur apparaissent comme étant absolument impeccables. Donc il y a effectivement une forme de présence absolue de la part d'Amazon comme étant la référence.
Et ce qui permet donc à Amazon de choisir ses clients.
Alors probablement, et dans un même élan, des Français qui vont dire globalement, alors qu'on est souvent extrêmement critique à l'égard des Américains, alors qu'on est souvent critique à l'égard du fait qu'il y aurait des gros contre des petits, et notamment que ceci détruirait le petit commerce, que l'image d'Amazon en France reste extrêmement bonne et reste même meilleure que d'autres acteurs sur le secteur, comme ceux que peuvent être par exemple Uber ou Facebook. Donc il y a aujourd'hui une image du commerce qui est délivré par Amazon qui leur permet d'adopter des comportements ou des attitudes qui effectivement peuvent heurter ou interroger une partie des Français ou une partie des consommateurs ou des clients, et qui font que de façon, comme chacun a le sentiment qu'il n'abuse pas et qu'en tant que tel, il n'est pas un fraudeur ou un mauvais client, cette situation ne va pas forcément les décevoir.
Jeannette Calimi, je sais que le sujet vous passionne.
Oui. Effectivement, le client était roi dans le monde d'avant, et là, je ne sais plus qui me disait ça, je crois que c'est vous d'ailleurs, hein, c'est finalement Amazon qui choisit ses clients. Le monde a totalement changé, et je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, c'est une entreprise qui est devenue une entreprise monde, hein, comme tous les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, qui déterminent leurs propres règles fiscales quelque part, puisqu'ils choisissent, ils optimisent fiscalement toute leur implantation pour payer le moins d'impôts possible. Ça, on le sait parfaitement. Mais ce qui est aussi important, c'est par exemple ce qui vient de se passer avec Vivatech, là, le grand salon où...
Attendez, Vivatech, c'est super important, mais...
Vivatech, alors.
Mathieu Aron.
Non, mais c'est normal de les associer.
Mais c'est normal. Mais je voudrais quand même aussi... C'est normal de donner un tout petit peu la parole à Mathieu Aron.
À la gestion des pays, à des politiques publiques, c'est ça que je veux dire.
Voilà. Alors, très rapidement, Olivier, ce qui me fait sourire, c'est que le géant Amazon avait une faille. C'est-à-dire que des petits malins aux États-Unis, un couple en particulier, s'est rendu compte que quand ils renvoyaient les produits, ou plus exactement, etc., ils recevaient le nouveau produit sans que le renvoi de leur propre produit n'ait été enregistré. Donc, ils ont systématiquement renvoyé leurs colis. Et systématiquement, ils en ont surtout eu de nouveaux, qu'ils revendaient au noir à côté.
Ah oui, alors c'était de l'escroquerie, quoi.
C'était de l'escroquerie. Ouais. Ça leur a quand même rapporté 1,3 million de dollars.
Et je me demande.
Millions?
Si, oui. $1 million d'Ali 3, c'est, bah, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Pour vous, aux Parisiens, c'est pas grand chose.
Les coûts
pour nous du service public, $1 million.
C'est 7 milliards de dollars.
Excusez-moi, mais pour un couple de particuliers qui renvoie ses colis à Amazon et qui gagne comme ça plus $1 million, c'est pas mal. Donc, je me demande. Donc, je me demande si cette histoire qui a été révélée il y a quelques semaines, ou un petit peu plus tôt même, n'est pas à l'origine, quand même, du fait qu'Amazon se soit rendu compte qu'il y avait une faille dans son dispositif et donc aurait adopté des procédures commerciales un petit peu plus sévères. Voilà, c'est assez amusant finalement que quelques personnes à l'esprit peut-être mal tourné puissent mettre en cause la puissance d'Amazon.
Bon, en tout cas,
finalement, c'est très humain tout
Amazon,
ça.
Amazon, hein, le client n'est plus roi, mais aux informés, c'est l'auditeur qui est roi. Je serai heureux en tout cas de vous retrouver demain parce que les informés, c'est terminé pour ce soir. Mais je vous quitte, je veux vous dire extrêmement serein car je vous laisse entre les mains de Jean-François Akili qui va nous présenter toutes les politiques. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir cher ami. Alors nous parlons ce soir, nous révélons le sondage, l'enquête Odoxa Dentsu Consulting sur les mouvements sociaux, mais je n'ai pas le droit de vous en donner le contenu avant l'heure. Allez, et nous ouvrirons également le livre de Christian Eckert, un ministre ne devrait pas dire ça. Il sera notre invité également avec Hugues Granson de La République En Marche, Laurent Salier des Républicains et Véronique Reil-Soult de Dentsu Consulting. Voilà.
Et j'ai oublié de demander la une de demain du Parisien.
Mais oui.
C'est des informations exclusives sur le financement de la campagne de Marine Le Pen.
Et l'Obs.
Eh bien, nous consacrons un très gros dossier à un nouveau mouvement écologique très important. Ce sont les anti-plastiques qui prévoient toute une série d'actions spectaculaires dans les jours à venir.
Allez, info, météo, et puis tout est politique.